On va revenir maintenant sur les faits du jour. Ce sont les incendies, le front des incendies. Si l'on a écouté, si l'on écoute ce qu'a dit tout à l'heure le Premier ministre Sébastien Lecornu, on a eu 7000 départs de feu ces dernières heures en France. Il y a un foyer principalement qui attire l'attention parce qu'il est quasiment urbain. C'est ce qui se passe du côté de Canet en Roussillon avec Océane Boisselot que l'on va retrouver en direct pour BFM TV parce que les flammes qui sont parties de l'extérieur de la ville touchent maintenant la marina et les chantiers navals.
Alors oui, au loin, on commence à voir les nuages de fumée s'estomper, mais rien n'est encore gagné. Et ici, sur la marina, en face de l'incendie, l'émotion est très forte. Selon plusieurs salariés qui ont souhaité rester cachés et n'ont pas voulu s'exprimer publiquement, les pompiers auraient rapidement localisé et sécurisé les produits chimiques situés à l'intérieur de l'entreprise Katana, entreprise où sont fabriqués des catamarans pouvant valoir plusieurs millions d'euros afin de limiter les risques. Toujours d'après ces témoignages, les fortes détonations entendues derrière moi tout à l'heure depuis le début de l'incendie proviendraient plutôt des campings voisins où les bouteilles de gaz exploseraient sous l'effet de la chaleur. Pour les salariés, la situation est particulièrement éprouvante. À quelques centaines de mètres, c'est également le camping Brasilia, considéré comme l'un des plus beaux campings d'Europe, qui à l'heure actuelle a été réduit en cendres tout au long de l'après-midi. Des vacanciers également sont arrivés dans les supermarchés à l'aide de leurs serviettes et des quelques effets personnels qu'ils ont pu prendre dans l'urgence en quittant le camping. Pensez donc à toutes les personnes concernées par cet incendie et soutien bien sûr aux équipes de secours qui sont mobilisées.
Océane Boisselot en direct du Canet en Roussillon pour BFM TV. Le préfet des Pyrénées-Orientales tenait un point de presse il y a quelques minutes et il revenait sur les circonstances de cet incendie.
Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'un feu est né à proximité du camping de Le Sainte-Marie, à Sainte-Marie-la-Mer. Il s'est ensuite propagé en sautant par-dessus le fleuve Tête vers la commune de Canet-en-Roussillon. Et là, le feu s'est développé sur deux autres campings, le Brasilia et le camping Le Marina. Voilà. Par ailleurs, le feu est en train de se diriger aussi vers le pôle nautique de Canet-en-Roussillon, où se situent plusieurs entreprises industrielles et sur lesquelles aujourd'hui, et au moment où je vous parle, nous concentrons tous nos efforts.
On connaît désormais le scénario de cet incendie.
On est vraiment sur un incendie très complexe avec des propagations. D'abord un feu de végétation qui se propage vers un camping puis plusieurs campings, trois campings évacués, 2000 personnes évacuées en vacances, en tongs, en maillot de bain. Moi, d'après le dernier bilan que j'ai, c'est 256 bungalows qui ont brûlé, donc ce qui s'explique assez facilement, hein. Ce sont des bungalows en plastique, en polyester, donc la propagation du feu se fait très facilement d'un bungalow à l'autre. Les explosions qu'on entend sont vraisemblablement, et c'est ce que dit le préfet, des explosions de bouteilles de gaz qu'on retrouve dans les bungalows, donc ce qui rend encore plus complexe l'intervention des
Comment le feu atterrit sur la marina, là, parce qu'on a vu tout à l'heure un yacht brûlé, il y a cet entrepôt qui est en flammes.
Alors, on a des sautes de feu, c'est le même principe que sur les feux de forêt, quand on a plusieurs départs de feu sur une forêt, eh bien ces sautes de feu passent de la zone de végétation au camping, du camping vers un bateau ou vers un véhicule ou vers, pour le coup, un site industriel, en l'occurrence l'entreprise Katana qui fabrique des bateaux. Et donc, on se retrouve, en plus de ces feux de camping, ce qui est déjà très compliqué à gérer, avec un feu industriel, un feu sur un bâtiment industriel, avec forcément dans ce bâtiment eh bien tout un tas de produits chimiques qui rendent les opérations de secours particulièrement complexes. Et puis, toujours par ce phénomène de saute de feu ou par le rayonnement, on a des propagations de ce feu à des bateaux, dans le port, dans la marina. Donc on est vraiment sur un scénario complètement improbable, mais dans ces situations-là, la probabilité n'existe pas.
Alors on savait qu'il y avait ce risque incendie, notamment dans ce département des Pyrénées-Orientales. Il a fait très chaud, les sols sont secs. Et puis il y a du vent aussi.
C'est vraiment le vent qui est peut-être le critère dominant, disons, aujourd'hui dans la situation. On parle de ces sautes de feu, forcément. Imaginez, donc, on a un débris qui saute, il est enflammé. Rajoutez ça sur des rafales de vent à 60, 70. On a même dépassé les 90 km/h aujourd'hui, hein, dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, ça a tendance à baisser un petit peu, mais forcément, au niveau de l'extension de la zone de feu, c'est absolument terrible. Le Mistral et la Tramontane, en l'occurrence, là, qui se sont renforcés. Souvent, on espère un petit peu qu'avec la nuit, on aura moins de vent. C'est le cas, mais pas tant que ça. On aura à minima des rafales à 50, peut-être 60 km/h encore toute la nuit.
De toute façon, il y a les pompiers qui ont...
Ils vont intervenir, là, on dirait.
Ouais, ils sont en train d'intervenir sur les entrepôts. Et pour les pompiers, c'est la fameuse loi des 30. Il faut expliquer ce que c'est, Léonore.
On parle souvent de cette règle des 3-30. Ouais. Il s'agit de... moins de 30% d'humidité. Là, on sait que la sécheresse, elle est à son maximum après l'épisode de canicule qu'on vient de vivre et dont on sort vraiment à peine en plus dans ces départements. On a plus de 30 degrés, là, c'est encore le cas. Hein, et à l'heure actuelle, on est encore à 31, 31,4. Et il va faire encore chaud ces prochains jours. Donc, on va rester très régulièrement au-dessus de ces 30 degrés. Et plus de 30 km/h, là, on est vraiment bien au-delà. Et c'est vrai que c'est une configuration qui est bien connue des pompiers et qui est extrêmement complexe. Là, on remplit clairement tous les critères.
Ce sont les images que l'on voyait là sur le chantier naval d'un bateau qui brûlait tout à l'heure. Donc pour les pompiers, il faut à la fois éteindre l'incendie et puis regarder comment éventuellement ça peut se propager. Alors, et faire des périmètres de sécurité.
Bien sûr, clairement, je ne sais pas comment l'opération a été organisée, mais en général, sur une opération, on a ce qu'on appelle un commandant des opérations de secours, donc un officier de sapeurs-pompiers qui commande le dispositif. Là, je ne sais pas s'il y a un commandant des opérations de secours, mais en l'occurrence, on a au moins trois, voire quatre chantiers distincts. C'est comme ça qu'on les appelle dans notre jargon. Vous avez un premier chantier qui est le feu de végétation, qui de toute façon, il faut le traiter.
De là où c'est parti, quoi.
Vous avez, parce qu'on n'est pas à l'abri de propagation de ce feu également et de partir sur quelque chose de beaucoup plus important, vous avez le feu dans le ou dans les campings qu'il faut arriver à traiter parce que ça demande des moyens très spécifiques. Vous avez le feu au niveau de l'entreprise, puisque là aussi, il faut déployer des moyens très particuliers, notamment pour protéger de tout ce qui est produits chimiques et sauver, si possible, une partie de cette entreprise qui vraisemblablement est coupée par ce qu'on appelle des murs coupe-feu qui empêchent les flammes de se propager dans différentes cellules de l'entrepôt. Et puis, vous avez en plus le feu des bateaux dans la marina qu'il faut également traiter par des moyens particuliers, alors, peut-être même par des moyens maritimes.
Oui, justement, est-ce qu'il faut évacuer les bateaux, demander aux plaisanciers d'éloigner leurs bateaux
Alors, la priorité des priorités, bien sûr, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus aucun occupant, plus personne dans les bateaux.
Pour
les
mettre tout à l'heure, on avait un témoignage d'un propriétaire de bateau qui disait « Mon voisin, il dort sur son bateau ».
Voilà, donc là, c'est quand même la priorité des priorités. J'imagine que si quelqu'un dort sur son pont, il aura été réveillé par les fumées et par le bruit. Maintenant, effectivement, soit on peut attaquer le feu directement et protéger tout ce qui peut craindre, pardon pour le terme, autour. Mais là, en l'occurrence, l'idéal serait de pouvoir détacher les bateaux qui sont à proximité de ceux qui brûlent pour les mettre en sécurité et éviter cet effet domino, éviter cette propagation. Maintenant, depuis un studio parisien, ça semble assez facile à faire. Il faut s'approcher. On n'imagine pas le potentiel calorifique qu'on peut avoir.
Avec énormément de fumée, là, on les voit.
Donc, énormément de fumée.
Justement, comment on intervient, là, on est pompiers, on est sur place. On les a vus tout à l'heure sur les images en direct, avec cette fumée qui se dégage.
Justement, ça devient particulièrement compliqué parce que dans une fumée comme ça, on voit rien. D'abord, ils interviennent sous ce qu'on appelle des appareils respiratoires isolants. Donc, ils les protègent complètement de ces fumées sous une tenue feu qui les protège également, de la chaleur et des flammes. Pour autant, ça reste des hommes et naviguer à vue dans une fumée aussi noire, aussi opaque, ça devient particulièrement compliqué. Puis là, il y a quand même d'autres risques. On est sur une marina, il y a toujours un risque de tomber à l'eau. Quand on a un appareil respiratoire qui fait 15 kilos et qu'on tombe à l'eau, il faut être bon nageur pour pouvoir en sortir. Donc on est vraiment sur des conditions d'intervention très, très complexes. Et puis on le voit sur ces images, le vent, regardez les flammes, ils sont carrément couchés. Donc ça favorise ces flammes, favorise ce que j'appelle cet effet domino. Ça veut dire ce que ça veut dire. Éléonore parlait tout à l'heure de la loi ou de la règle des 330. Moi, j'aimerais rappeler la loi de Murphy, qu'on appelle aussi la loi d'emmerdement maximum. puisqu'on est vraiment dans un scénario, moi je vous assure, pour organiser énormément d'exercices de crise, c'est un scénario, si je le propose
là, c'est complexe là.
Si je le propose à un client, je suis pas sûr qu'il me dise attendez, votre scénario il tient pas la route.
Ouais.
Ouais. Là, il faut rappeler que c'est des images qui datent d'il y a quelques minutes. D'après ce que nous disait Océane Boisselot, le feu sur le bateau a été éteint, pour l'entrepôt s'est maîtrisé. Alors, on va du coup se déplacer du Canet, du Pyrénées-Oriental de Canet en Roussillon. On va aller du côté de Pouzol-Minervois. Là, on est dans l'Aude. On va retrouver Arthur Escudé pour BFM TV parce que là-bas, le feu est toujours en cours aussi.
Oui, et vous le voyez sur ces images de Léane de la Brière, eh bien ce feu ici à Pouzol n'est toujours pas maîtrisé ni fixé. Les flammes sont encore en train de traverser toute cette forêt ici dans ce quartier tout proche des habitations, des habitants qui ont d'ailleurs été évacués hier soir et au fil de la journée aujourd'hui parce que tout simplement, je le disais, les flammes s'approchaient de leur maison. Voilà, c'est même un autre quartier qui devrait être évacué dans les heures qui arrivent, eh bien parce que ce feu s'agrandit, il est même en train de traverser la route, il a atteint plusieurs endroits ici dans les départements donc de l'Hérault et de l'Aude où nous nous trouvons. Un feu qui n'est pas maîtrisé, pourtant des moyens nécessaires ont été mis en place ici. 4 canadaires, 2 bombardiers d'eau et un dash qui sont sur place et qui tentent en vain d'éteindre ce feu. Voilà, depuis l'arrivée des pompiers hier, tout a été fait pour le maîtriser. Ce sont plus de 900 sapeurs-pompiers qui sont passés par ce feu pour essayer de l'éteindre. Je le rappelle, donc c'est plus de 900 hectares qui sont partis en fumée. Un feu qui n'est donc pour l'heure ni fixé ni maîtrisé.
Alors l'Aude, l'Hérault, quel point météo peut-on faire sur ces départements et au nord ?
La configuration météo est assez proche finalement sur tous ces départements qui sont en rouge, notamment l'Aude et donc un peu comme les Pyrénées-Orientales, on a eu des rafales de vent très importantes. On a dépassé les 90 km/h, là ça on s'y attendait peut-être pas forcément, on savait qu'il allait y avoir un renforcement du vent aujourd'hui, mais là on a des pointes à 91 km/h à Arquette-en-Val, 94 km/h à Lézignan-Corbières. Donc on est vraiment sur des rafales extrêmement importantes pour ce genre de configuration. Les températures sont là encore, on reprend la règle des 3,30 au-delà des 30 degrés, puisqu'on était plutôt sur du 31 degrés du côté de Narbonne, ou voilà, proche.
Et pas un poil d'eau à l'horizon.
Pas un poil d'eau et pas un poil d'eau à venir, ni pour les prochains jours, ni pour la prochaine quinzaine.
Oui. Le retour de la chaleur qui est confirmé pour ce week-end, même s'il n'y aura pas de département en rouge ce week-end, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le Premier ministre en déplacement à Marseille.
On va pas réunir les conditions du rouge, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire très chaud. Ça va vraiment remonter samedi, on pourra être sur du 35 degrés et même au-delà pour dimanche.
Et ça va durer ensuite toute la semaine prochaine. Léopold,
on va écouter justement Sébastien Lecornu qui était cet après-midi à Marseille, le chef du gouvernement, où il a fait un point sur la situation, mais du point de vue national, en donnant le nombre de départs de feu.
En 7000 départs de feu depuis le début de la saison, déjà 8700 hectares brûlés, dont 1200 seulement hier, non loin d'ici. Et c'est pratiquement chaque jour 2000 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, civils, militaires qui ont été mobilisés aujourd'hui et hier. Et la situation est assez tendue, et notamment à chaque fois en fin de journée. Je vous rappelle que 9 départs sur 10 de ces feux sont toujours d'origine humaine. Alors, volontaire ou involontaire, mais enfin toujours d'origine humaine, 9 sur 10, c'est absolument évidemment considérable.
Le Premier ministre est sur le pont, sur le front, canicule, incendie et canicule.
Eh oui, c'est un peu le triptyque qui guette encore Sébastien Lecornu pour les prochaines heures. Il faut dire qu'en fait, il a fallu quelques minutes seulement après cette prise de parole qu'on a vécue sur BFM TV pour que les faits, en quelque sorte, lui donnent raison avec cet incendie quand même très impressionnant et ces images que l'on voit au niveau de la marina du Canet en Roussillon. Le Premier ministre, il essaye, quelque sorte, sans mauvais jeu de mots, d'éteindre l'incendie avant qu'il ne prenne trop d'ampleur, en tout cas au niveau national, avec des mesures qui sont donc précisées dans ces cellules interministérielles de crise. On en a vécu beaucoup sur le thème de la canicule récemment. Là, il a fait le choix de se rendre directement à Marseille parce qu'il voulait montrer aussi qu'il avait compris que le sud serait particulièrement touché. On sait que cette bande rouge de départements qui sont déjà en vigilance maximale sont particulièrement à risque et dangereux. Il s'agit là maintenant de gérer deux choses dans les prochaines heures. Les incendies, bien évidemment, on l'a entendu dans cet extrait. Et puis, la semaine prochaine, un épisode de canicule qui va potentiellement, en tout cas selon les températures qui seront annoncées dans les prochaines heures, accentuer un phénomène de sécheresse. Et donc, oui, faites le signe comme ça, une boucle
c'est
permanente.
C'est une espèce de boucle. Et au milieu, arrive un épisode d'activité politique aussi, pour le Premier
ministre.
Effectivement,
assez orageux, électrique, celui-là aussi, qui va agiter l'Assemblée nationale, puisqu'on On a appris, c'est une information BFM TV aujourd'hui, que ça y est, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, a bien déposé cette motion de censure soutenue par la France insoumise. On comprend également, d'après nos informations, celles d'Edgar Becquet du service politique de BFM TV, que les socialistes, autour desquels, c'est vrai, on se posait beaucoup de questions, que vont-ils faire? Vont-ils soutenir une motion de censure déposée par les écologistes ou non? Et bien, en tout cas, du côté d'Olivier Faure, cette consigne est passée aux députés socialistes de voter cette motion de censure. Vous allez me dire, est-ce que ça peut quand même passer? Bon, au moment où on se parle, c'est plutôt...
Il faut rappeler, c'est 577 voilà. députés, et pour que le gouvernement tombe, il en
289.
Faut...
289.
Faut que le RN vote.
C'est plutôt improbable, puisque le RN est assez frileux à l'idée de voter cette motion de censure, donc ça ne passerait pas, mais ça montre quand même qu'il y a voilà, une tension en vue du prochain budget qui se profile.
Revenons sur le front de ces incendies, Ludovic. La saison des incendies commence toujours plus tôt, hein. Avec ces conditions climatiques. On a les moyens, parce que chaque année, il y a une polémique. Est-ce qu'on a assez de canadaires, assez de pompiers mobilisables? Est-ce qu'on a renforcé les effectifs?
Alors, l'annonce officielle de deux nouveaux canadaires commandés est passée au mois de juin, là, et a été donnée par le ministre de l'Intérieur, ce qui fait donc au total 4 canadaires commandés. Maintenant, ces canadaires commandés, ils ne sont pas là. Donc, on en a toujours.
C'est 2028.
Alors, on espère.
Les livraisons.
On en a combien alors?
Alors, moi, j'ai pas les éléments de langage de la Direction générale de la sécurité civile, donc je peux pas vous répondre. Je n'ai pas ces éléments de langage. J'ai entendu 2028.
Donc là, on en a combien de disponibles?
12, que ce sont des vieux appareils qui ont 30 ans, qui sont entretenus, et c'est une bonne chose. Les 12 canadaires sont pour l'instant disponibles, opérationnels, ce qui n'a pas toujours été le cas. Maintenant, il y a eu des investissements également en termes d'hélicoptères, etc. Il y a eu des moyens qui ont été loués, notamment il y a 6 Air Tractor, qui ont été prépositionnés en Gironde pour intervenir sur les feux de forêt sur la côte sud-ouest. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Maintenant, je suis pas certain qu'on ait pris de l'avance par rapport à la situation. Et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en termes d'effectifs, c'est compliqué. Il y a un vrai problème de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qui représentent presque 80% de la force opérationnelle en France. Moins de disponibilité, il faut savoir que ces sapeurs-pompiers volontaires qui sont comme vous, comme moi, hein, qui ont un métier et qui font ça en plus, souvent posent des congés pour pouvoir intervenir en renfort des départements du Sud. Sauf que si on a maintenant des incendies majeurs qui démarrent début juillet, ils vont, s'ils commencent à poser leurs congés au mois de juillet pour intervenir en renfort, ils n'auront plus de congés à poser au mois d'août ou au mois de septembre.
Donc effectivement, je crois qu'il faut
s'inquiéter et il va falloir anticiper aussi cette situation. On compte aussi beaucoup sur les renforts européens. Mais encore une fois, si ça brûle en Grèce ou au Portugal, vous imaginez bien que ces pays ne vont pas apporter des renforts à la France. On en a besoin.
Bien sûr, merci pour ces précisions. On va surveiller ces incendies, ces sinistres.